Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Collin pour son roman Nancy et Lorraine, publié aux éditions Rebellin, et Patrick Richard pour son roman L'abbaye des Calunes, publié également aux éditions Rebellin. Avec nous, John Bullitt qui nous fera la lecture de sa nouvelle Un séjour à la campagne. Bonjour messieurs, j'espère que tout va bien.
Bonjour.
Bonjour.
Alors nous allons commencer avec Bernard Collin. Bernard, Nancy et Lorraine sont deux jeunes femmes, l'une américaine, l'autre française. C'est un roman à deux voix. Parlez-nous de ces deux personnages de votre roman, s'il vous plaît.
Alors l'idée, c'est un petit peu aussi d'évoquer les 80 ans de la libération de la ville de Nancy, donc en septembre 1944 par les Américains. J'ai imaginé l'histoire donc, d'une jeune Américaine qui s'appelle Nancy, et c'est certainement son prénom est dû à un hommage à la ville de Nancy, puisque son grand-père était un vétéran de la libération de cette ville. Donc le vétéran en question a 98 ans. Il voudrait bien retourner sur les traces de son passé parce qu'il y a des questions suspense. Et il n'a pas tout résolu de son passage en France. Donc devenu trop vieux, il mandate sa petite fille, Nancy, pour aller en France sur les traces du passé. Et là, elle arrive évidemment, elle arrive sur les plages du débarquement où elle rencontre une jeune nancéenne qui s'appelle Lorraine, qui s'ennuie à mourir sous le ciel gris de la Normandie. Et de leur rencontre va jaillir une sorte de vérité à la fin du livre, c'est-à-dire que toutes les deux vont à la quête du passé.
Mmh. Alors la Seconde Guerre mondiale joue un rôle important dans votre récit. Vous avez dû faire des recherches historiques ?
Oui, c'était relativement plus facile que pour mon roman historique sur la guerre de 30 ans qui s'appelle Le Dernier Lorrain, puisque tout ce qui est sur la guerre de 39-40 est beaucoup mieux documenté.
Mmh. Alors, ce roman est une quête, une enquête et une belle histoire d'amour, d'accord ?
Une histoire d'amour inattendue.
Oui. C'est difficile de parler, quand on est un homme, de parler de ce genre d'histoire d'amour ?
Souvent, ce sont les personnages qui prennent le pouvoir. Au départ, j'ai commencé à écrire le livre pour une évocation de la guerre, mmh. et puis aussi, mais évidemment, avec une action qui se passe au présent.
Mmh.
Et puis petit à petit, donc, la rencontre entre les deux jeunes femmes a fait qu'elle faisait elle-même ce qu'elle voulait. En fait, c'est un peu comme si les personnages d'un roman prenaient le pouvoir à l'insu de leur auteur.
Oui, et c'est vrai qu'il y en a plusieurs des écrivains qui disent que c'est les personnages qui prennent le pouvoir.
Oui, je pense que c'est... En fait, on leur donne un caractère, un physique, on les décrit, et elles prennent vie dans notre imagination.
Mmh.
Et après, bah, quelque part, les caractéristiques, les traits qu'on leur a donnés font qu'elles vivent leur propre histoire. C'est assez fascinant d'ailleurs.
Alors, votre roman est aussi une ode à la Lorraine. On sent bien que vous aimez votre région. Alors, à part la place Stanislas, quel autre endroit lorrain touche particulièrement votre cœur, je dirais ?
Alors, dans le roman, précisément, donc, y a une partie de l'enquête qui commence à Seixey-aux-Forges. Alors, ce n'était pas un hasard total. Je suis né dans ce petit village de Lorraine.
D'accord.
Je suis né à Seixey-aux-Forges et certains personnages, notamment une certaine Guite, une Marguerite, sont des personnages que j'ai rencontrés dans la réalité mm-hmm. et qui m'ont touché par leurs caractéristiques.
Alors le contraste culturel entre notre bonne ville de Nancy et le Texas est assez vertigineux. Ça vous a posé des problèmes pour camper vos personnages ?
Pas spécialement parce que j'ai choisi une ville du Texas et la ville de Jefferson n'a pas été choisie par hasard. Jefferson, c'est une ville atypique aux États-Unis puisque c'est, comme je l'explique dans le roman, c'est une ville qui est restée un petit peu figée dans le passé.
Mmh.
Et donc cette ville a une architecture qui exclut tout ce qui est gratte-ciel, tout ce qui fait l'Amérique. C'est Jefferson et New York, c'est deux mondes différents. Et finalement, Jefferson serait peut-être plus proche d'une ville comme Sarla ou comme Nancy que de New York.
Oui. Bah elle c'était une ville importante, mais qui a vu son déclin parce qu'elle a raté le coche du train, en fait.
Voilà, c'est ça. Elle a raté le coche du train parce qu'ils avaient il y avait un cours d'eau qui était pratique pour emmener tous les matériaux. Et quand la dynamite a été inventée, ils ont fait sauter un barrage naturel de rondins de bois. Et l'eau s'est détournée du passage de la ville. Et il a fallu faire quelque chose. Et le temps que le train arrive, la ville était sur le déclin et elle a gardé son architecture de l'époque.
Oui.
Ce qui en fait maintenant un atout puisque c'est une ville touristique.
Vous y êtes déjà allé ?
Jamais, j'en rêve. Je pense qu'avec le succès du livre, j'ai été invité chez personne.
Alors vous écrivez à un moment, la fraternité entre les hommes de bonne volonté dépasse la nationalité. Les drapeaux doivent se mettre en berne devant l'humanisme. Seul ce qu'il y a au plus profond du cœur des hommes est important. C'est très beau, mais un peu utopiste, non ?
Oui, c'est un petit peu utopique, mais l'utopie, c'est fait pour rêver, et c'est un vœu en même temps. Et c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. L'humanisme doit tout dépasser, et c'est pour ça, d'ailleurs, sans révéler l'histoire, c'est pour ça que le vétéran américain, Robert White, est un héros, mais pas un héros où on l'attendait, c'est pas un héros qui tue, ça. Et oui. Je le dis, c'est un héros de paix.
Oui. C'est vrai. Le problème, c'est qu'on ne peut pas trop parler de votre livre sans dévoiler beaucoup de choses. Si, j'ai vu qu'il y avait un gros passage sur Vézelise.
Oui.
C'est une ville un peu méconnue, effectivement.
Oui, c'est une ville qui a raté le coche de la loi Malraux. La loi Malraux, c'est une loi sur la préservation du patrimoine. Et la première ville qui a bénéficié de la loi Malraux, c'est Sarlat, en Dordogne, dans le Périgord noir. Et cette ville qui était en déclin, mais qui avait gardé justement toute son architecture Renaissance et Moyen-Âge, a bénéficié en premier de cette loi pour préserver les bâtiments, pour les restaurer. Et ce qui fait maintenant une ville où il y a beaucoup de tournages de films très touristiques. Et Vézelise aurait pu être ça, parce que quand on regarde, il y a des merveilles d'architecture, justement, de l'époque Renaissance, mais rien n'a jamais été fait pour la préserver. Et à part les halles magnifiques, le reste est tombé en décrépitude.
Oui, c'est vrai. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est une belle ville. Alors, vous avez dédié votre roman au héros inconnu. Alors, pourquoi ?
Voilà, parce qu'en fait, Robert White, c'est un héros inconnu. Donc, il y a les héros connus, ceux qui laissent des traces, qui se battent, qui ont tué plein de monde. Et puis, il y a les héros inconnus, qu'ils soient du côté allemand, du côté français, du côté américain. C'est les gens qui étaient projetés dans une guerre un peu par hasard, parce qu'il faut quand même le dire, un Américain... Il n'avait pas vraiment le choix. La France, il ne connaissait pas. Les Américains ne connaissent pas bien la France, ils ne connaissent pas l'Europe. Et à l'époque, ça peut être un paysan qui fait son champ. Et puis on lui dit, tu vas aller à des centaines de kilomètres te battre pour libérer un pays. Et ce pays, il ne le connaît pas. Les gens, il ne le connaît pas. Il ne les connaît pas. Donc, pour moi, qui suis attaché à la paix, avoir des héros de paix, des gens qui sont un petit peu par hasard sous la mitraille et qui finalement...
Gardent leur humanisme.
Et même si le roman est une fiction, il y a eu plein de cas comme ça.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, ce sont toujours les mêmes. Qu'on voit, quand on reparle de la Seconde Guerre mondiale, on parle toujours des mêmes personnages.
Plus ou moins. Bien sûr. Et il y a plein de héros anonymes, donc je leur ai dédié le livre.
Mmh. Alors ce qui m'a frappé, c'est qu'on dit toujours que les Lorrains sont plutôt pas très accueillants, en fait. Alors que là, ils acceptent volontiers de répondre aux questions de Lorraine et de Nancy.
Plus ou moins, parce que quand elle interroge la personne clé du roman à Vézelise, sur le moment, le gars répond, je ne connais pas, je ne sais pas c'est qui. Et en fait, c'est un contact téléphonique qu'il y a eu avec son fils qui permet justement cette rencontre. Mais je soutiens que les Lorrains sont très accueillants quand même,
oui. Je
pense. D'ailleurs, l'américaine est la personne la plus réservée et la plus extravertie, est la Lorraine.
Oui, bien sûr, c'est vrai. Dans votre roman, oui. Dans la réalité, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Ça doit dépendre des gens, je suppose.
Je pense. Mmh.
Alors, nous revenons avec une chanson que vous avez choisie, Jimmy, d'Aloïse Sauvage.
Solitaire, Jimmy s'affaire à s'affirmer pas à pas, même si tout ça est harassant parfois. Jimmy a le regard troublé, Jimmy le sait. C'est désormais sur celle-ci que s'orientent ses yeux conquis. Jimmy enchaîne les blagues, Jimmy divague, pensant déjà à la belle bague qui ornerait le doigt de sa future femme. Jimmy tape le terrain, Jimmy sent bien. C'est terriblement grisant. Nancy. La nuit Jimmy gémit quand on lui dit que
quoi?
Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui Jimmy veut. La nuit Jimmy gémit quand on lui dit que
quoi?
Mais arrêtez de dire que Jimmy aime qui Jimmy veut.
Fort quand quelqu'un s'approche, trop près de celle pour qui Jimmy s'accroche. Jimmy charme, Jimmy gagne la confiance de sa belle qui se laisse couler sous les draps jusqu'au souper. En s'oubliant, se laisser vivre. Jimmy a réussi son coup dans la rue à son bras s'appelle Ciné. Et Jimmy, que j'ai déjà beaucoup, ses plans sur la comète un jour des enfants à son cou. Jimmy voit très bien que les yeux étrangers regardent les siens. C'est sa première fois, sa première femme. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'on les observe pas.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Bernard Collin, venu nous présenter son roman Nancy et Lorraine, publié aux éditions Rebelline, et Patrick Richard, venu pour son roman L'Abbaye des Calunes, publié également aux éditions Rebelline. Avant de parler de l'Abbaye des Calunes, John Bullitt va nous faire la lecture de sa nouvelle, Un séjour à la campagne.
La chance est une courtisane capricieuse qui est à la table des dieux et des hommes, hésite souvent à dévoiler ses charmes et se faire inviter à danser. Cette histoire peu banale en est le reflet. Mon père, durant la dernière guerre de 39-45, alors âgé seulement d'une dizaine d'années, habitait à la plaine Saint-Denis, tout près de Paris avec ses parents. Toute la région était occupée par les troupes allemandes et était plutôt calme, sans combat. Enfin, du moins, si on se tenait tranquille, malgré la main de fer des nazis. Mais à partir de début 1944, les Alliés, avançant vers Paris, se mirent à bombarder régulièrement tout le secteur, et en particulier, justement, la plaine Saint-Denis, car cette ville se trouvait être un nœud ferroviaire, très important pour les Allemands, voire cruciaux pour l'acheminement par train de leurs armes, chars, autres engins de guerre. Alors, craignant pour sa survie, mes grands-parents envoyèrent alors mon petit papa chéri à la campagne. Plus précisément à Coulanges-sur-Yonne. J'ai une connaissance de leurs amis afin de le mettre à l'abri et le sauver de ces maudits bombardements. Ah, le voyage pour y arriver fut pour le moins épique. Nous partîmes en camion, empruntés à l'une de leurs connaissances de travail. L'imposant Berlier GDRAG gazogène ne fonctionnait qu'au bois et charbon. Restriction d'essence oblige. Cependant, mon grand-père n'était pas inquiet. Et il avait l'habitude d'utiliser cette sorte de véhicule lors des livraisons de carton de son usine. Pour éviter les contrôles, celui-ci décida que le voyage s'effectuerait de nuit et par petite route. Cette ruse n'empêcha pas l'arrêt inopiné à un barrage allemand en rase campagne du côté de Château-Thierry. « Halte ! À qui êtes-vous ? Papier, bitte ? » Oh, Tout tremblant de peur, mon grand-père bredouilla qu'il allait à un enterrement familial dans un village voisin avec son fils dès le lendemain matin. Heureusement, habillé de sa redingote noire, son chapeau claque, la fable semblait plausible et une bonne bouteille de vin discrètement refilée aux soldats de garde acheva de le convaincre. Relevant sa barrière rouge et blanche, l'Allemand les laissa passer, lui glissant néanmoins d'un clin d'œil appuyé. « Goûte, goûte. Alors, bon enterrement, monsieur ?» Mon grand-père ne se fit pas prier et, passant la première, repartit vivement du barrage ennemi. Quelques kilomètres passés à se féliciter d'avoir franchi le barrage et « Attends, fiston, je vais remettre quelques bûches. » Et leur voyage nocturne se poursuivit, entrecoupé d'arrêts, de morceaux de hêtre ou de bouleau bien vite avalés par la machine. Et le fourneau infernal du moteur gazogène, avide de bois, demandait son dû. L'inquiétude de la pénurie saisit même mon grand-père. Aussi leur vitesse devint-elle inversement proportionnelle au tas de bois qui s'amenuisait derrière eux. Les ennuis ne venant jamais seuls, mais plutôt en escadrille, au bout de quelques kilomètres d'une relative tranquillité, ce furent les phares de la voiture qui s'éteignirent brutalement. Coup de frein aussi brutal, à tâtons, mon grand-père sortit du véhicule, tapota sur les lampes récalcitrantes, en haut, en bas, mais rien n'y fit. Il actionna vainement le bouton des lumières sur son volant, mais rien. Redescendit au phare et toujours rien. En pleine nuit, ils étaient perdus. Impossible d'attendre jusqu'au matin ou au lever du soleil pour finir leur périple. C'est mon père qui sauva la situation en posant son coude par inadvertance sur le second bouton d'allumage. Il provoqua alors un bref éclair lumineux que mon grand-père repéra immédiatement. « Qu'est-ce que tu as fait, Jean ?»«
Moi ? Mais j'ai rien fait de mal, papa. »«
Mais si, tu as appuyé sur quelque chose, une manette, un bouton, ou bien... »«
Oui, peut-être sur ce bouton, là. »«
Ce bouton ? Attends que j'essaye. »«
Oh ! Oui, c'est vrai. Génial ! En l'enfonçant complètement, les phares fonctionnent. »
Ah, ça c'est curieux, mais... Oh, génial mon garçon. Bon, alors, voilà ce qu'on va faire. Tu vas appuyer sur le bouton à fond tout le temps, hein? Et puis papa va conduire pendant ce temps. Tu m'as compris?
Oui, papa, j'ai bien compris.
Attends, fiston, je vais en profiter pour remettre quelques bûches.
Et le voyage nocturne se poursuivit ainsi, quinqua entrecoupé de bûches à remettre, et de moments où, épuisé, mon père s'endormait sur le bouton en question, et ce où mon grand-père, terrifié, hurlait aussitôt
« Jean, les phares, je vois plus rien !»
Au petit matin, celui-ci put enfin lâcher le maudit bouton des phares et s'endormir quelques instants, juste avant que les ennuis ne reprennent.
« Jean, il pleut! Réveille-toi! Actionne la manette des essuie-glaces, je vois plus rien !»
En effet, la seule façon de faire fonctionner ces antiques essuie-glaces qui raclaient péniblement les vitres dans ce vieux véhicule se trouvait être une petite manette que mon père dut agiter de gauche à droite durant des heures et de manière incessante. Ah, l'équipage du camion gazogène fut donc très affairé, particulièrement occupé chacun par son travail. Mon père aux manettes, mon grand-père au volant. L'un tentant de ne pas s'endormir, l'autre tentant de percer l'orage et ses larmes de pluie à près de 40 km à l'heure. Ouh là là, quelle vitesse! Exténués tous deux, ils atteignirent enfin Coulanges-sur-Yonne, vers 10h du matin. Encore un dernier effort, car le domicile des amis, se trouvait à l'autre bout du village. Et là, au bonheur, une bonne soupe chaude, un lit douillet, les attendait, tous deux. 12 heures de repos pour mon grand-père. Dès la nuit suivante, ce dernier repartait directement vers la plaine Saint-Denis. priant qu'il n'y ait surtout pas d'orage, que le morceau de bois qu'il avait coincé dans le bouton des phares suffise à les faire fonctionner. Oui, il lui fallait rentrer au plus vite, le cœur serré, rejoindre son épouse, laissant là son fils unique et aussi une partie de ses économies. Ouais, rien n'est gratuit dans ce monde. Oh, ne t'inquiète pas, fiston, c'est l'affaire de seulement quelques semaines. Hein. Avant que je revienne te chercher, au moins ici, ce sera calme. Tu ne risques rien. Tu entends les mouches, hein? Et les oiseaux, hein? C'est beau, hein? Ah, je reviendrai bientôt. Allez, viens ici que je t'embrasse. Ce qu'il ignorait, mon brave grand-père, c'est que ce petit village de Coulanges-sur-Yonne possédait un pont. Un pont absolument vital pour permettre la fuite des Allemands en déroute dans ce quartier. C'est pourquoi les Alliés avaient prévu de bombarder celui-ci, de tenter de le détruire. 8 jours seulement après le retour de mon grand-père vers la plaine Saint-Denis, ils envoyèrent une première vague de bombardiers B-52 lâcher leur cargaison de morts à la verticale de Coulanges. Et si elle toucha effectivement le pont, ne détruisant cependant qu'une petite partie de l'ouvrage, la seconde vague de bombardiers destinée à finir le travail la rata complètement. Mais par contre détruisit quasiment toute la petite bourgade. Hein. La mairie, l'église, les 3/4 des maisons ainsi que le cimetière furent totalement rasés et le village ne fut plus qu'un champ de ruines. La plupart des villageois décédèrent sous les bombes. Il fallut d'ailleurs une troisième vague pour détruire enfin totalement ce maudit pont. Et quant à mon père, me direz-vous, qu'était-il devenu ? Eh bien, apprenez, chers amis, que l'abus d'alcool peut parfois vous sauver la vie. Oui. En effet, les amis de nos amis aimaient la dive bouteille. Enfin, je dirais même qu'ils abusaient de la bouteille et de son contenant. Le patriarche avait donc envoyé mon jeune père chercher l'une de ces bouteilles à la cave, juste après le premier passage des B-52 qui les avait épargnés. On est chanceux de s'en être tiré, alors on va fêter ça. J'enfile à la cave nous ramener une bouteille de rouge. Crénon dedans. Du rouge, et pas du blanc, crénon dedans. Mon père disparut dans la cave sombre des amis de nos amis et entreprit de scruter chaque bouteille avec attention. Le temps qu'il trouve enfin ladite bouteille de rouge, s'apprête à remonter les escaliers que la seconde vague d'avions lâche à toutes ses bombes. L'une d'elles, tombant dans le jardin voisin, rasa entièrement la maison de nos autres, assoiffés, tuant tous les occupants, excepté mon père, dans sa cave profonde et salvatrice. Voyez, je vous l'avais dit, l'alcool peut vous sauver, je le savais bien. En tout cas, cette histoire invraisemblable, mais véridique, aura au moins permis de sauver mon père et de pouvoir donc vous raconter aujourd'hui même cet incroyable séjour à la campagne. La chance est une danseuse qui avait offert cette nuit-là sa valse gracieuse à mon père. Ah, qu'elle en soit bénie.
Merci, John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors Patrick, l'un de vos héros, Pierre, est un journaliste indépendant qui a un penchant pour l'irrationnel. Alors je ne dévoile rien puisque c'est écrit dans le prologue. Vous aviez envie de mettre le lecteur tout de suite dans l'ambiance de votre roman ?
Tout à fait. Pardon.
Alors, qu'est-ce que vous appelez l'irrationnel déjà ?
Qu'est-ce que j'appelle l'irrationnel ?
Oui.
Réponse toute bête, ce qui n'est pas rationnel.
Mais oui, bien sûr. Quelque chose qui ne facile. S'explique pas spécialement.
Voilà, tout à fait.
C'est plus dans ce style.
J'ai tendance à faire dans ce style des choses un peu extraordinaires. C'est un peu le thème de mes 3 romans, d'ailleurs. On est toujours dans l'extraordinaire.
Voilà. Alors, c'est un roman qui se situe parallèlement entre 2 époques, le 12e siècle et de nos jours, et entre 2 abbayes. Racontez-nous.
Voilà, alors, sans vouloir tout raconter, c'est l'histoire de deux garçons, deux étudiants, qui se côtoient dans une faculté à Paris. Et de cette rencontre naît une grande amitié, on va dire, et ils gardent des contacts, chacun de leur côté, c'est-à-dire lui réside toujours à Paris, et l'autre est reparti chez lui en Roumanie. Et ce garçon devient une grosse responsabilité au niveau des monuments historiques. Il est, on va dire, pratiquement sous le ministre de la Culture. Hein, donc il gère quand même beaucoup de, dans le patrimoine roumain. Et le personnage principal, qui s'appelle Pierre, son ami français, lui est assez passionné de tout ça. Et ça fait longtemps que son ami l'invite en Roumanie. Il dit, écoute, je vais te faire visiter quelque chose de très curieux, une abbaye comme tu n'as jamais vue. Alors, date est prise. Et donc, il profite de ses congés pour partir en Roumanie. Et arrivé à l'aéroport, son ami le reçoit et lui dit, écoute, je suis désolé, je suis appelé au ministère et je ne peux pas absolument te faire la visite moi-même, donc soit on reporte, mais j'ai une autre solution, tu vas visiter avec le gardien de l'abbaye, qui en sait historiquement autant que moi, et en plus il a quelques détails croustillants à raconter, des légendes, etc. etc. Donc en fait il n'a pas trop le choix, et il reste donc seul avec ce gardien. Et là commence l'aventure. Alors effectivement, on fait des petits bonds d'aujourd'hui à 800 ans en arrière, de la Roumanie à la France. Donc c'est un chassé-croisé entre les dates et les lieux. Voilà.
Alors votre abbaye de Calune est une abbaye construite au XIIe siècle dans les Vosges.
Tout à fait.
Vous la décrivez avec de nombreux détails. Vous vous êtes inspiré d'une abbaye existante ?
Absolument pas.
Pas du tout ?
Absolument pas.
Ça faisait penser un peu à Autrey.
Pas vraiment. Alors, d'ailleurs, j'ai fait deux plans de l'abbaye.
Oui, bien sûr, oui.
C'est vrai que la forme est un peu particulière, puisqu'en fait, elle ressemble à une étoile cinq branches inversées, ce qui symbolise généralement le malin. Voilà. Alors, au départ, l'abbaye, qui est la première abbaye qui est construite à Bruyères, elle a une forme d'étoile normale.
Oui.
Enfin, normale.
Dans le bon sens,
on va dire. Et c'est par la suite, donc... Enfin, je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail, parce que je vais quand même...
Bien sûr, non, on va laisser...
On va laisser...
Bien sûr.
Un peu de suspense.
Oui. Hein.
Donc il se passe effectivement des choses assez bizarres dès l'arrivée de Pierre dans cette abbaye.
Bien sûr.
Il se passe vraiment des phénomènes étranges, des bruits, des sons, et le gardien l'engage surtout à ne pas quitter sa chambre.
Oui.
Rester bien enfermé, voilà. Ça c'est le premier conseil qu'il lui donne.
Alors avez-vous effectué des recherches spécifiques sur l'histoire ou sur l'architecture des abbayes pour enrichir votre histoire ?
Non, absolument pas.
Non, c'est tout. C'est tout. De votre...
Voilà, l'imaginaire, l'imagination. Non, c'est complètement inventé. La seule chose qui soit vraie dans ce roman, c'est l'existence d'une abbaye en Moselle, dont j'ai oublié le nom, c'est un nom mosellan, mais j'ai pas retenu. D'où vient ce moine ?
D'accord.
Ce moine qui vient donc, qui était chassé, et qui vient construire une abbaye à Bruyères. À peu près à l'époque de la construction, enfin tout de suite après la construction du château de Bruyères, parce que lui a quand même existé.
Oui, oui.
Il
n'y
a plus de traces aujourd'hui, ou très peu. Mais j'ai profité un peu de cette époque-là pour construire cette abbaye, mais alors cachée en pleine forêt, puisque personne ne connaissait l'existence. Alors comment il a construit cette abbaye ? Tout simplement parce que c'est un moine qui est franchement... déjanté, on peut le dire. Hein.
Mais pas dans le bon sens.
Mais pas dans le bon sens, hein, qui a usé de malhonnêteté en règle générale, de boire de prostitution, il a fait travailler les filles, etc. etc. Donc c'est comme ça qu'il a amassé une petite fortune pour pouvoir payer les gens qui ont fait cette abbaye.
Alors le surnaturel est bien présent dans votre récit. Vous croyez au surnaturel ou c'est juste pour les besoins de l'écriture ?
Alors, il me plaît d'en parler de temps en temps.
Oui.
Je suis un peu comme tout le monde, un peu, je dirais pas passionné, pas du tout, mais curieux.
Oui, c'est ce que je veux dire, curieux.
Curieux. Oui. Curieux de certains phénomènes qui se produisent, voilà. Moi-même, chez moi, j'ai eu des choses un peu bizarres qui se sont passées, donc...
Ah bon ?
Oui, donc je crois pas forcément aux fantômes, enfin du moins, c'est tel qu'on les présente, mais Il y a eu effectivement, il y a des fois des phénomènes inexpliqués, inexplicables, qui se produisent dans notre vie. Et... voilà. Alors peut-être que ça peut quelque part m'inspirer, effectivement.
Oui. Mais
bien qu'on soit quand même assez éloigné de mon histoire.
Mmh. Alors il y a beaucoup de scènes de violence et un certain raffinement dans le détail des sévices infligés. Vous vous êtes inspiré de Vlad III, connu aussi sous le nom de Vlad l'Empaleur.
Alors, je connais Vlad, oui, effectivement.
Rappelons que c'est celui qui a inspiré le personnage de Dracula.
Tout voilà à fait, ça. Tout à fait. Non, en fait, je me suis simplement basé sur des faits historiques, des choses qui se sont passées, malheureusement, hélas, j'ai envie de dire, parce que c'était quand même cruel. Hein.
Bien sûr,
on est quand même en pleine époque de l'Inquisition. Bon, c'est pas une époque très tendre, en règle générale. Et c'est vrai que même... Bernard me disait, c'est quand même assez hard par moment, c'est vrai,
ah oui.
Mais ce sont des choses malheureusement qui ont existé.
Oui, c'est sûr.
Je ne fais que relater des faits historiques en fait. Encore que je ne pousse pas trop loin dans la torture, puisque pas tant que ça.
Oh bah quand même, il y en a déjà pas mal.
Alors,
ça, c'est déjà...
c'est ce qui est plus hard, ce ne serait pas les tortures en elles-mêmes, ce serait plutôt la folie de ce moine.
Ben, bien sûr.
Qui, lui, a des exactions, mais alors...
Oui. Alors, vrai, donc, ce moine du XIIe siècle, il s'appelle Don Diabolibus.
Voilà.
Don Diabolibus.
C'est ça.
Il est encore plus cruel que Vlad III, en fait, parce que Vlad III, au moins, il avait été salué pour sa lutte contre la corruption et l'injustice dans son pays. Et alors, c'est pas le cas de votre personnage.
Hein? Absolument pas.
Est-ce qu'il a un seul bon côté, celui-ci? Le
pas
vôtre
pas. Non, c'est non, ça, non, non, pas... non, non, non.
J'ai pas l'impression. Hein.
Ah non, il y a rien. Absolument rien. Non, non, c'est quelqu'un de très, très cruel, d'ambitieux, de cruel, enfin, on va lui donner tous les défauts, pratiquement.
Toute ressemblance avec toi, c'est pas possible.
Ah ben, heureusement. Heureusement.
Ah, tu me rassures.
Alors, c'est difficile de décrire des scènes de torture et de mise à mort. Vous avez fait des recherches ou c'est bien, ça sort de votre imagination ou de vos cauchemars?
Je suis simple, non même pas, je suis simplement allé voir ce qui existait. J'avais déjà une connaissance de par soit des lectures, soit des films ou autres supports sur des musées aussi, sur tout ce qui était instrument de torture à l'époque, on a entendu parler. J'ai simplement repris ça. Après, les scènes proprement dites qui se passent dans l'abbaye, avant les tortures, avant que l'inquisiteur arrive, non, ça sort de mon imagination. Peut-être que l'histoire de la cervelle qui est mangée sur une dame vivante, c'est vrai que ça m'a fait penser au film... j'ai pensé au film Hannibal Lecter.
Et c'est là qu'on peut saluer le courage de l'éditeur qui a bien voulu éditer ce livre.
Oui, on en parlera après.
Mais merci l'éditeur.
Alors, vous avez rencontré des difficultés particulières lors de l'écriture de l'Abbaye des Quelunes. Et si oui, comment les avez-vous surmontées?
Pas vraiment. Non.
Pas vraiment.
C'était écrit assez rapidement.
Même les scènes de torture, parce que, je ne sais pas, moi, ça ne s'invente pas. Enfin, ce n'est pas que ça ne s'invente pas. Vous avez pris des... Mais il faut quand même la retranscrire et tout. Il faut l'adapter à votre roman personnage.
Peut-être que j'ai une part de folie en moi qui se rapproche peut-être de ce moine. J'en sais rien. Vous allez me faire peur.
Non, mais je ne sais pas, parce que je me dis... moi, j'y arriverai pas.
Vous savez, c'est ce que disait Bernard tout à l'heure. Une fois qu'on est dans... On invente un personnage, on finit par se mettre à vivre ça. Alors... Évidemment, il en sort, c'est pas terrible.
Oui.
S'il peut dire, j'ai l'esprit un peu tordu. Non, pas du tout. Hein. Je suis tout à fait, j'ai envie de dire, normal, équilibré et tout.
Je confirme.
Tu confirmes. Merci. Mais bon, voilà, après, c'est l'imaginaire qui fait
oui,
le reste.
Oui, bien sûr. Alors, beaucoup sont fascinés par les personnages effroyables, tels que les zombies, les sorciers, les vampires et autres tortionnaires. Pourquoi cette fascination, à votre avis?
Ah, je peux pas parler de fascination. C'est plutôt le...
Je parle pas de vous, mais il y en a beaucoup qui sont intéressés par ce genre de...
Alors, comment l'expliquer?
Oui. Je ne sais pas, comme vous avez écrit dessus, je me suis dit que vous étiez peut-être pensé sur le problème.
Non.
Non, pas
non,
du
non,
tout.
Non, pas vraiment, non. Non, non. Non, non, je...
Les gens aiment bien se faire peur facilement, en fait, sans risque.
Je pense
risque,
que...
Oui. C'est l'avantage, c'est que c'est sans risque quand on imagine quelque chose.
Tout à fait. Et je pense que chacun de nous, il y a cette petite part un peu. D'ailleurs, on voit qu'est-ce qui se vend bien dans les journaux, c'est quand il y a du sang, malheureusement. Mmh. C'est les... quand il y a des catastrophes.
Oui.
C'est là qu'il y a des gros tirages. Oui, que ce soit tremblement de terre, avion qui tombe, etc. Et je ne veux pas dire que les gens sont assoiffés de sang, je n'irai pas jusque-là. Mais il y a ce petit côté quand même, hein, un peu morbide.
Mais je trouve que déjà, ça se ressent aussi beaucoup dans certains romans policiers. Il faut du gore, absolument. C'est, voilà. Hein, c'est affolant.
Et même moi, je me pose la question. Je me dis, quand je lis certaines choses, je me dis, mais comment ils ont pu aller imaginer ça, quoi. Il faut être, comme on dit, tordu. Quoi, pour aller penser. Bah, bon, je dois en faire partie, certainement.
Alors, l'écriture, messieurs, c'est un moyen de vous évader, d'explorer d'autres mondes ou de donner libre cours à votre imagination ?
C'est un plaisir, l'écriture, déjà. Ça commence par être un plaisir, oui. Oui. Oui.
Vous avez commencé tôt ou pas ?
Non, absolument pas. Mon premier roman, c'est 2019. Mmh. J'avais envie d'écrire, comme j'ai eu à des époques des envies de peindre, ou de sculpter, ou de travailler de mes mains, ou voilà. C'est venu comme ça, en fait.
Oui.
Ça faisait, en fait, un certain temps que j'avais envie d'écrire.
Mmh.
Mais c'est un peu comme la peinture. On a envie de peindre, mais quoi ? On se trouve devant une toile blanche, qu'est-ce qu'on ferait bien comme... Enfin, mmh. On n'a pas spécialement un sujet qui vient tout de suite à l'esprit. Et l'écriture, c'est un peu pareil. Je me suis un peu essayé comme ça, sur quelques petites histoires courtes. Et puis, en fait, j'ai trouvé le sujet, voilà. Suite à un voyage en Italie, et puis... C'est parti comme ça.
Après, on est plus ou moins doué aussi dans un domaine ou dans l'autre. Si tu fais des bonhommes têtards toute ta vie dans la peinture, c'est pas très...
Pas, franchement, je suis doué. Des fois, on me considère comme un artiste. Pas vraiment. Quand je vois certains peintres ou certains dessinateurs, le coup de patte, comme on dit, qu'ils peuvent avoir, c'est moi, je suis épaté. Moi, c'est pas ça. Je fais de la copie, je me débrouille pas mal, hein, je fais des tableaux, des choses comme ça. Mais
alors, je voudrais remarquer quelque chose, c'est que la couverture de l'Abbaye des Calunes, c'est un tableau de Patrick Richard.
Oui.
Donc, c'est lui qui a fait le tableau, et ce tableau a été photographié pour faire la couverture.
Ah, d'accord.
Donc, voilà. C'est vraiment son œuvre. Le livre, c'est son écriture, mais c'est aussi le magnifique dessin de couverture.
Oui.
Est dû à Patrick.
Les vitraux sont pas mal, effectivement.
Et le deuxième roman, c'était également la couverture. Je cherche le titre.
L'héritière,
oui. Alors, et vous, Bernard, vous écrivez pourquoi, vous ?
Alors, moi, pourquoi j'écris ? Donc, c'est d'abord un moyen d'expression. Et puis, alors, ça va être effrayant encore plus que le moine du roman de Patrick. Quand on écrit, on se sent Dieu. C'est-à-dire qu'on crée des personnages. Et donc, on veut être Dieu. Donc, on donne le pouvoir de la vie. On a la vie. On crée un monde. On crée des personnages. Et donc, pendant un certain temps, on s'illusionne. Nous sommes Dieu, nous les écrivains, on fait ce qu'on veut. Et comme je le disais tout à l'heure, finalement, les personnages se rebellent et se disent « c'est pas cet écrivain qui va nous faire ce qu'il veut ». Et donc, après, les personnages prennent vie, et notre imagination aidant, prennent le pouvoir totalement sur le roman.
Mmh. Et toi, John ?
Moi, ça me plaît d'écrire. C'est pas vraiment. Je suis ni hanté par la torture ni par les personnages, mais moi, je me retrouve un petit peu dans ce qu'ils disent tous les deux, c'est-à-dire inventer et choisir. Des fois, ça me fait de la peine de me dire, oh non, celui-là, je vais pas l'éliminer, c'est pas possible le personnage. Donc oui, il y a un pouvoir de création et d'invention qui est très autosatisfaisant.
Et vous n'avez pas de personnages récurrents, vous, en fait ? Ça ne vous intéresse pas d'avoir un personnage ?
Alors, j'avais pensé faire un personnage récurrent avec les aventures d'un avocat. C'est quelque chose que je écrirai peut-être un jour. Mais pour l'instant, non. Chaque roman est fondamentalement différent de l'autre.
Oui.
Mais c'est vrai que l'avantage d'avoir un personnage récurrent, c'est d'une facilité pour pouvoir développer l'imagination, puisqu'on ne repart pas d'une page blanche. On a déjà le personnage avec ses caractéristiques, son physique et puis son activité. Donc ça aide.
Oui, mais il va évoluer quand même.
Mais il évolue. Mais ça aide. C'est un point de départ.
Mm-hmm.
Alors que à chaque fois que j'écris un nouveau roman, il n'y a pas de point de départ. Il faut partir à zéro.
Oui.
Bernard disait tout à l'heure, bon, on crée le personnage, effectivement.
Oui, bien sûr.
Mais après, je crois qu'on se laisse un peu porter par ce personnage. C'est un peu lui qui nous guide, quand même. Hein, parce que Enfin, moi, ma façon d'écrire, j'ai envie de dire, je serais presque scénariste. C'est-à-dire que je rends. Enfin, mais je pense qu'on le fait tous. On rentre dans le, carrément dans le roman, dans le cadre. Mmh. Si mon personnage ouvre une porte, c'est moi qui l'ouvre. Quoi. Je veux dire, ce qu'il va voir, c'est ce que je vois.
D'accord. Hein,
ben, je pense qu'on est tous pareils, plus ou moins.
Oui, oui, je
moi, c'est un scénario, en fait. Hein.
Mm-hmm. Le plus dur, je trouve, c'est que pouvoir se mettre dans des personnages différents. On a effectivement un leader, souvent, à l'intérieur d'un roman ou d'un texte, d'une histoire, mais... comment réagisse l'autre, comment réagisse on parlait justement, nous qui sommes des hommes, écrire pour des femmes, le langage des femmes, les réactions, c'est différent forcément, et donc c'est pas évident de trouver ça, enfin je
oui,
trouve
j'ai adoré le faire quand j'ai écrit l'histoire de Nancy et Lorraine. J'ai adoré me mettre dans la peau d'une femme, et je trouve que c'était que j'ai essayé d'éviter l'écueil d'avoir une vision trop masculine des choses, et c'est pour ça que je suis resté un petit peu sur une certaine réserve et une ambiguïté dans la relation entre les deux filles, parce que forcément je pouvais pas aller dans un domaine qui n'était pas celui de mon genre, mais en même temps dans chaque homme il y a une part féminine, notamment pour les écrivains par rapport à l'imagination, donc ça aide à pouvoir se glisser dans la peau d'un personnage. Si on arrive à se mettre dans la peau d'un tueur, d'un moine diabolique, on doit pouvoir quand même se mettre dans la peau d'une gentille jeune fille, ça doit être plus facile.
Dans l'Abbaye de Canut, il y a juste une femme, mais on la voit très peu, en fait.
Oui.
Ah, c'est vrai que c'est un peu anecdotique. Oui.
Ouais, tout à fait. À Bruyère. Oui. Oui. Je pensais que Mona allait nous poser la question, est-ce que dans notre, disons, le personnage principal, en l'occurrence Pierre, dans ce dernier roman, est-ce qu'il y a un peu de nous?
Bah oui, mais j'ai pas osé poser la question, parce que compte tenu que le personnage principal, c'est pas tellement le journaliste, c'est plutôt le moine.
Oui, pas très flatteur.
C'est pour ça que je vais pas lui poser ce genre de question.
Et tu pouvais pas la poser pour moi non plus, puisque les personnages principaux sont deux femmes. Donc
Alors allez-y, Patrick. Bon,
ouais, je pense qu'il y a... Effectivement, il y a toujours une petite part de nous-mêmes. Pas forcément importante, mais une petite part, je pense qu'on doit quelque part se retrouver dans un personnage.
D'accord.
Certainement. Enfin,
ça dépend. Je te trouve. Pierre te ressemble un petit peu, mais pour cette fois, Pierre n'est pas le personnage principal. Non, dans ton premier roman, effectivement, je pensais beaucoup à toi quand je l'ai lu.
Il s'appelle Pierre aussi. Ils s'appellent tous Pierre, en fait.
D'accord.
C'est un hommage à mon père, voilà.
Une façon de ne pas se tromper.
Aussi.
C'est possible. Alors, comme je disais tout à l'heure, que ce soit l'Abbaye de Calune ou Nancy et Lorraine, ce sont deux livres qui sont édités à la maison d'édition Rebouline, dont nous avons le président.
Oui, alors, c'est pas une date anodine, 2024, nous sommes en 2024, donc Rebouline a 20 ans. Donc, c'est pour une maison d'édition associative, ou même pour une maison d'édition générale, c'est la preuve... C'est la preuve d'un succès, puisque vivre 20 ans quand on est une entreprise ou une association, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Nous avons publié des dizaines et des dizaines de romans, plusieurs auteurs, et le succès est toujours au rendez-vous. Alors évidemment, c'est le succès régional, hein. Je ne me confonds pas avec Gallimard ou Le Seuil. Mais en même temps, ça a permis à beaucoup d'auteurs de pouvoir s'exprimer, parce que le but de Rebouline, c'est pas d'aller piquer un auteur qui a déjà publié, c'est au contraire de donner sa chance à quelqu'un qui n'a jamais encore écrit de livre. C'est le cas d'ailleurs de mes deux voisins, Patrick et John. En fait, leurs premiers livres ont été édités chez Rebouline. C'est la fierté de Rebouline.
Tout à fait.
Et c'est pas trop, je veux dire, prenant, parce que vous êtes une association, donc je suppose que...
Alors c'est très prenant, d'ailleurs, nous sommes principalement deux, enfin on peut dire, nous ne sommes que deux à faire tout le travail, Nathalie qui fait un travail considérable, et moi-même, et donc on fait les mises en page, on fait des inscriptions au salon, on fait le choix éditorial de la maison d'édition, ce qui n'est pas si simple, parce que nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Comme nous sommes diffusés principalement régionalement, il faut que l'auteur soit de la région, il faut évidemment qu'il écrive bien, que l'histoire soit intéressante, et en même temps qu'il soit sympathique, parce que je ne pourrais pas travailler avec des personnes désagréables, étant donné que nous sommes tout le temps dans des salons tous ensemble, il faut que l'ambiance ne se détériore pas. Et c'est avec ces choix-là que Rebellion a pu avoir 20 ans.
Mm-hmm. Et donc, vous êtes reparti pour 20 ans ?
Je pense que nous sommes repartis pour 20 ans avec certainement de gros changements dans les mois ou les années à venir, en tout cas de gros changements de structure.
Oui. Ah oui. Et de personnes, parce que
de structure et de personnes.
Oui, oui. Vous envisagez plus l'association toujours ?
Alors, j'envisage toujours l'association, mais j'aimerais adosser la maison d'édition à une société de distribution pour être plus efficace.
Ah, c'est sûr que là,
parce que la faiblesse de Rebellion, c'est n'est que la distribution. Nous n'avons que des points forts, mais la distribution coûte tellement cher que c'est toujours ce plafond de verre qu'il faut franchir pour pouvoir se développer ailleurs que dans la région.
Mm-hmm. Et il y a pas mal de petites maisons d'édition dans la région. Vous ne pourriez pas vous regrouper juste pour le...
Pour la distribution, il existe des distributeurs qui sont spécialisés dans les petites maisons d'édition. J'en ai déjà approché, mais c'est une décision qu'il faut prendre à plusieurs. Ça implique beaucoup de choses, notamment du point de vue financier.
Ah oui, d'accord. Alors maintenant, parlons de vos projets.
Alors, moi j'ai un projet, je suis en train d'écrire un livre, et le livre c'est sur la possibilité d'un changement de vie, c'est-à-dire c'est le changement de vie. Le thème principal sera le changement de vie, ou les changements de vie, puisqu'il y aura plusieurs personnages qui vont être confrontés à un changement de vie.
D'accord, et la sortie est prévue pour quand ?
Comme d'habitude, pour juillet-août.
Mm-hmm,
en fait, Rebellion sort toujours les livres juste avant la rentrée littéraire, comme les maisons d'édition font généralement.
Mm-hmm. Patrick ?
Alors, j'ai deux projets en cours. J'ai un roman qui est commencé depuis un certain temps, qui n'avance pas beaucoup. Parce que, bon, j'ai eu des problèmes personnels, mais bon, ça c'est... Donc, c'est vrai que ça m'a un peu bloqué dans l'écriture. Pour l'instant, le titre, faut pas le dire. Ouais, de toute façon, c'est un titre provisoire.
Ça
peut changer. Et puis un autre qui écrit, on va dire en totalité, mais qui est plutôt un petit livret de nouvelles.
Mm-hmm.
Pour l'instant, je dois avoir une douzaine de nouvelles, mais je pense en enlever, et peut-être en rajouter d'autres parce que ça, voilà.
D'accord. Et vous arrivez à écrire plusieurs livres en même temps, on laissait tomber un, le reprendre ?
Oui, le livre que je suis en train d'écrire, je l'ai commencé il y a 4-5 ans.
Mmh.
Et à chaque fois, j'ai une nouvelle idée, j'écris autre chose. Et donc...
Pas près d'arriver au bout,
alors. Non, mais longtemps. Des fois, la maturation est très très longue. Hein. C'est comme un bon vin, des fois, il faut attendre un peu. Mais oui, on peut écrire deux livres à la fois. En tout cas, on peut écrire des nouvelles d'un côté et un roman de l'autre côté. Peut-être deux romans, ça doit être plus difficile.
John, toi, tu écris toujours des nouvelles ?
Je rebondis sur ce que vient de dire à l'instant. Justement, je suis sur un recueil de nouvelles.
Mmh.
Une quinzaine de nouvelles, à peu près.
Mmh.
Donc ça c'est terminé au niveau de l'écriture à part des ajustements et puis donc sur un roman sur l'intelligence artificielle une histoire.
Ah oui. J'en ai entendu parler depuis un moment. Il avance ce roman.
Il avance, oui. Je suis allé peut-être aux deux tiers à peu près de l'histoire. Mais j'espère que ça ne va pas durer 4-5 ans, comme
dit
Bernard.
Oui, j'espère, parce que moi, je l'attends avec impatience.
Mais oui, Bernard, il l'attend. Mais...
Et puis, en plus, ça va être un des premiers romans sur l'intelligence artificielle qui ne sera pas, justement, un roman écrit par l'intelligence artificielle, comme on en voit quelques-uns maintenant.
Donc... C'est vrai, même de plus en plus.
Oui, non, je pense qu'il sera pas mal. Ouais.
Mais en même temps, c'est bluffant, l'intelligence artificielle.
Oui, c'est bluffant, mais en fait, il existe certainement des écrivains qui s'en servent, mais ça donne des romans linéaires, aseptisés. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement que les personnages prennent vie et prennent le pouvoir. Et j'aime bien aussi ce qui raccroche, ce qui est inattendu. Par exemple, les excès du personnage Diabolicus dans le roman de Patrick, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle n'aurait jamais pu faire. Mm-hmm. Donc, l'histoire des deux jeunes filles, l'intelligence artificielle, elle peut pas connaître, elle connaît pas l'intelligence artificielle. Elle ne connaît pas assez Vézelise ou Pierre Latrèche pour pouvoir bien parler d'une région. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, c'est pour les gros tirages des grandes maisons d'édition et pour plaire à un public qui ne veut pas de vagues.
Si tu veux, Mona, un jour, je viens avec une petite nouvelle courte écrite uniquement avec l'intelligence artificielle.
D'accord.
Je lui donne le thème, je ne te le dis pas.
Oui.
Et puis hop, je te lis ce truc en deux pages. Et
d'accord.
On verra ce que tu en penses.
Moi, j'ai juste essayé une fois. Bon, j'avais déjà préparé un questionnaire avec mes invités. Et j'ai posé la question, quelle question poser pour une interview radiophonique pour tel roman? Eh bien, écoutez, j'étais un peu bluffée quand même. C'était,
ah oui,
assez, c'était assez incroyable.
Oui, parce que peut-être que l'intelligence artificielle est plus apte à ce genre de questions.
Mm-hmm.
Alors que l'écriture d'un roman complet, c'est quand même pas la
c'est
même
pas
chose.
Pareil,
ah bah non, c'est sûr. Bah, enfin, il y en a quand même qui sont satisfaits.
Bah, je pense que l'intelligence artificielle se réfère uniquement à des données qui sont déjà inscrites, donc pas forcément qui sortent de l'imaginaire. Ce sont des bases,
entre
guillemets, solides.
Oui, c'est l'utilisation optimale de bases de données. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Non, mais là, il me ressortait tout le nom du personnage.
D'ailleurs...
C'était affolant. Ah, oui, alors qu'ils n'étaient pas tous sur la quatrième de couverture, donc... Je me suis dit qu'il y avait quand même...
Je pense que vous le savez, mais le terme intelligence artificielle est faux en France. Parce que l'intelligence, ça n'a rien à voir avec l'intelligence.
Bah, oui,
c'est plus... base de données, en fait, c'est ça.
Eh bien, merci, messieurs. Alors, merci à Bernard Collin d'être venu nous présenter son roman Nancy et Lorraine, publié aux éditions Répeline. Merci à Patrick Richard d'être venu, lui, nous parler de son roman L'Abbaye des Calunes, publié également aux éditions Répeline. Merci à John Bullitt pour la lecture de sa nouvelle Un séjour à la campagne. Merci à Juris qui était à la technique aujourd'hui. Et nous nous quittons avec, naturellement, la salsa du démon par le grand orchestre du Splendide. Au revoir à tous et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Je bois, j'ai tous les vices.